Bonjour! Bonjour, ma princesse!
You fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
Sarah Connor, non. Je suis ton père.
Tu n'es qu'un jouet!
Oh mon Dieu! Ils ont tué Kenny!
Voilà ce qui se passe quand on veut niquer des gens jusqu'au trognon!
E.T. Maison téléphone.
Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission de Ciné Primitif, la deuxième de la saison, avec toujours Bobo Dahu.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir pour une spéciale Halloween.
Oh ouais. Oui, le thème de cette émission, Halloween, donc même principe que d'habitude, hein, 6 films qu'on va vous présenter de chacun.
Oui, oh. tout à fait, après, bon, sur Halloween...
C'est pas ton truc, toi, tu préférais Noël, non mais...
c'est compliqué.
Non, ça va. Voilà. Chacun son
On
tour.
A des bons films. D'ailleurs, je propose qu'on commence par le premier, un film que j'ai choisi. C'est Coraline, un film d'animation sorti en 2009, réalisé par Henri Selick, qui a fait aussi L'étrange Noël de Monsieur Jack, que j'avais présenté l'année dernière sur le thème Noël.
Qui faut le dire, L'étrange Noël de Monsieur Jack est fantastique.
Ouais, Coraline aussi. Non, t'as moins aimé. Ok, on va en parler. Donc, pour la petite histoire, Coraline Jones est une fillette intrépide et curieuse. Elle vient tout juste d'emménager avec ses parents dans une étrange maison. Ses parents n'ont aucun temps à lui consacrer, et donc, pour s'occuper, Coraline décide donc de jouer les exploratrices. Ça fait beaucoup de donc. En ouvrant une porte condamnée, elle pénètre dans une maison identique à la sienne, mais où tout est différent. Dans cet autre monde, chaque chose lui paraît plus belle et plus colorée. Mais en réalité, ce monde cache un sombre secret. Voilà, pour le petit synopsis, c'est un film entièrement en stop motion.
Ouais, c'est impressionnant la technique.
Ouais. Bah, d'ailleurs...
En post-générique, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais t'as des séquences justement de tournage après le générique. Non, vous avez pas
été jusqu'à la fin. Non, j'ai pas fait gaffe.
Okay, sur fond bleu, où ils montrent un peu comment ils tournent les séquences des souris, en fait, qui sortent de la porte...
Ok, non, j'ai pas déjà
mis. Non, je suis pas allé au bout. Moi, j'ai vu le générique.
T'es endormi avant ?
Ouais, c'était pas loin.
Ah
c'était
ouais ?
C'était pas loin, ouais.
Qu'est-ce que t'as pas aimé ?
Bah, non, c'est pas que j'ai pas aimé, si tu veux. C'est que, effectivement, quand. Alors, je sais. Est-ce que L'étrange Noël de Monsieur Jack a été fait avant ou après ?
Avant.
Avant, ouais. Avant.
Avant, voilà. Donc.
Henri Selick, ça devait être son premier film. Si
ouais, et enfin, voilà, il y a beaucoup de similitudes, beaucoup de.
Ouais, bien sûr.
Bah moi j'ai bien aimé, je l'avais jamais vu. Je pensais l'avoir vu au cinéma, mais en fait non, je sais pas ce que j'étais mal. C'était pas Coraline.
Je l'ai regardé suite à l'émission de Noël justement qu'on a fait l'année dernière, parce que Tim, qui était notre invité, nous en avait parlé. Et
dit c'est
que Henri Selick avait fait Coraline qui était bien. Et du coup, bah, j'avais le DVD, enfin voilà, donc c'était l'occasion.
Ouais, et... moi j'ai vu en mauvaise qualité, j'aimerais bien le voir en bonne qualité, je t'emprunterai ton DVD après.
Ah ouais. Pour le revoir, bah vas-y, ouais.
Oui, parce qu'au final, ça mettait pas en avant la qualité du travail, je pense.
Ouais, bah clairement.
Mais oui, enfin, si... après c'est vrai que c'est un film de... avec énormément de boulot derrière, etc. Mais si tu veux, ça a déjà été fait avant, et je vois pas trop de différence en fait avec
l'étrange Noël
de Monsieur Jack ou de plus-value, je, voilà.
Ouais, je trouve ça différent et puis c'est quand même, ouais, tu disais beaucoup de boulot, c'est 18 mois de tournage.
Mais après, l'histoire est belle,
deux années
l'histoire
de...
est belle.
Ouais, pré-production. Mais ouais, l'histoire est bien en plus, c'est cool, franchement, moi je trouve le stop motion, enfin j'adore en plus.
C'est assez bien foutu, non franchement, le... moi je... pour passer un mauvais moment, en tout cas, je l'ai regardé comme ça bien traite. Et...
Non, mais si tu veux, c'est pas un film que je me dis, ah tiens, je vais le revoir une deuxième fois, tu vois.
Ah ouais, okay. Bah, moi, je vais le revoir en meilleur qualité.
Ouais. Je vais passer DVD après.
Ouais, tu vois, je un petit peu, ouais.
Bah, je pense que c'est un bon film pour enfants, du moins tout familial. Hein, tout
ouais, film, on commence pour... gentiment pour le thème Halloween. C'est pas à 100% Halloween, mais il y a
c'est
quand même...
bien,
il fait
non,
un peu peur hein, quand même
c'est...
pour les enfants, je pense que
ah,
tu vois
oui,
ça
oui,
gamin.
Oui. Il y a des choses qui sont plus, ouais. un petit peu effrayantes, effectivement.
Et le scénario est de lui, du coup
Bonne question. Allez faire vos recherches. Mais, non, en plus, c'est, l'histoire est cool parce que c'est une fille qui est totalement délaissée par ses parents et elle apprend à grandir et elle s'invente un monde qui finalement n'est pas tout rose. contrairement à ce qu'elle pensait, tu vois, un monde idéalisé où ses parents sont tout gentils, ont le temps pour elle, etc. Et au fait, il s'avère que c'est des monstres.
La sorcière.
Ouais, la sorcière.
Une sorcière. Mais après, ça reste un film quand même qui a eu certaines nominations.
Ouais, bien sûr, ouais. Oscar 2010 du meilleur film d'animation, BAFTA 2010, pareil, meilleur film d'animation. Et Golden Globe 2010, meilleur film d'animation.
Ouais, donc en 2010,
entre autres, je pense qu'il y a eu d'autres récompenses.
Ils ont raflé pas mal de choses.
Ouais.
Ah, déjà, un Oscar, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Peut mieux faire.
Ouais, bah t'as de la concurrence avec Pixar et tout ça quand même. Hein. Donc quand c'est sur un film d'animation, c'est un Oscar avec tes
Pixar. C'est vrai.
Ah, puis la BO aussi, si on va en venir à la musique, la BO est cool. Elle est signée Bruno Coulet. C'est un compositeur français. Il a travaillé notamment pour Les Rivières Pourpres et Les Choristes.
Ton film préféré.
Ouais, le film préféré.
Les Rivières Pourpres, film de...
Les Choristes.
Non, Rivières Pourpres, c'est...
Kazovic, oui.
Mathieu Kazovic, ouais, voilà. Et mais Christ, c'est pas...
C'est pas Kazovic.
Avec Junior, non, mais
c'est pas Gérard Junior qui a réalisé.
C'est possible. À ne pas revoir.
Ouais. Les choristes, oh, ça va pas les choristes.
Oui, non, ça va.
Pour Halloween, ça passe.
Ouais, on aurait pu mettre ça pour Halloween.
Tiens. Ouais,
avec Moulin Rouge et d'autres.
On veut pas traumatiser non plus tout le monde.
Moulin Rouge. Ah, c'est vrai, on aurait dû faire un spécial. Un spécial à
quoi? Je vous garde les choristes pour une prochaine.
C'était quoi que tu voulais faire? Un spécial.
Et comédie musicale.
Ouais, mais on l'aura
l'année prochaine. Je fais un spécial comédie
musicale. Voilà, voilà. On a dû faire ça pour Halloween, comédie musicale.
Ok, je le garde dans le coin de ma tête. L'année prochaine, on fera ça. Alors,
ouais, pour le doublage, c'est Yatcher qui fait.
Ah ouais, ouais, j'ai
vu dans le générique, du coup, j'ai vu en VF aussi, mais. Ouais.
Et en VF, je ne sais plus qui a fait les doublages.
Ah bah, il y a le mec qui fait. Il y a William Corin, je crois, qui fait dans le South Park.
Ah ouais, ok. Ouais.
Qui fait la voix du gamin.
Ah ouais, ouais.
Et du mec du cirque.
Ouais, bah c'est des voix, de toute façon.
Je crois que c'est William Corin.
On entend beaucoup, mais les noms, je ne connais pas. Donc...
Voilà.
Et bah, je vous propose qu'on passe à la petite musique que j'ai choisie, du coup, vu que la BO est cool. Et le son que j'ai choisi, c'est dans le générique de fin. Et de retour dans Ciné Primitif, c'était la musique de Coraline du générique de fin pour le thème Halloween. Et film suivant.
On va passer à Poltergeist, réalisé en 1982 par Steven Spielberg. Et sur le générique, on va dire que c'est Toby Hooper, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse. Le scénario de Steven Spielberg, la musique de Jerry Goldsmith. Hein.
Tiens.
Ça faisait longtemps.
Ouais, Jerry, bah, hey.
C'est produit par Steven Spielberg et sa société de production Amblin. sorti en 82. Bon, on va passer directement au synopsis.
Vas-y.
La famille Freeling mène une vie paisible dans la banlieue de Cuesta Verde, mais leur maison devient le théâtre de phénomènes paranormaux inquiétants. Objets qui bougent seuls, et surtout la disparition de leur fille Carol Ann, aspirée dans une autre dimension à travers l'écran de télévision. Pour la retrouver, ils font appel à des parapsychologues et à une médium. Alors, c'est le premier film, on va dire, fantastique de Steven Spielberg, vraiment. Il a toujours voulu faire plus ou moins une sorte de film d'horreur. Sauf que quand cette année-là, il sortait E.T. une semaine après, du coup, il a pas pu signer son nom sur la réalisation.
Mais c'est lui quand même, Carrel.
Ah, ben il a la plupart des scènes. Hein. Sauf les scènes où t'as du stromboscope et. Ou l'autre s'arrache-cheville. Ces scènes un peu plus horrifiques et gore, c'est réalisé par Toby Hooper. Sinon, c'est vraiment des Spielberg. Tu le reconnais dans la réalisation.
Ouais, c'est vrai.
Où tout se passe en arrière-plan. Et au fur et à mesure, le personnage va arriver devant la caméra et parler. Si vous voyez, tu l'as dans tous ces films à chaque fois. Les acteurs font des trucs derrière, et puis au fur et à mesure, ça avance vers la caméra pour se...
Mais pour moi, si tu veux, c'est la première fois que je vois le film. Je t'assure, je ne l'avais jamais vu avant. Et je vois réalisateur Toby Hooper. Je regarde le film, et en fait, je dis, putain, c'est du Spielberg. Ouais. C'est du Spielberg.
Déjà, le placement de produit du Star Wars, t'as du...
Le placement de produit Star Wars, il y a du Star Wars partout, dans la chambre du
gamin. Dark Vader. Il y a même un poster Alien.
Il y a un poster Alien, exactement. Le 8e passager. Ouais, avec le premier Alien. Que j'ai présenté, d'ailleurs, la saison dernière. Mais oui, effectivement, et tu parlais de la scène où il s'arrache le visage. T'as l'impression que cette scène, elle fait pas partie
de... Je suis d'accord avec toi, parce que d'un coup, t'as du gore, alors que t'en as pas, un film pour enfants, sinon.
T'as l'impression que t'es dans la mouche.
Ouais, j'allais dire que film, on va dire que c'est le premier pas vers un film d'horreur, je pense, pour un enfant. Du moins, c'est accessible, on va dire, à 7, 8 ans, et sorti à moins de 16 ans. Ce passage-là qui, franchement,
chaud.
Moi, c'est le clown, surtout, qui me faisait psychoter étant plus jeune.
Le clown, il est flippant, mais c'est pas dans du gore où il y a du sang.
Mais déjà, c'est vrai que cette scène, elle est...
Qu'est-ce que tu fais avec un clown assis sur une chaise en face de ton
lit? Tu lui mets un t-shirt Chewbacca sur la tête. Et ce film, après, il a eu des histoires urbaines, on va dire. Comme quoi, il y avait une légende, les acteurs mouraient, tout ça. Bon, après,
c'est vrai.
C'était à l'époque, mais ils ont quand même utilisé apparemment des vrais squelettes. J'ai essayé de contredire cette information. J'ai pas trouvé comme quoi c'était faux. Donc,
je crois que c'est vrai.
Je crois que c'est vrai, du coup.
Ah oui?
Dans la piscine creusée, ils en avaient déjà utilisé sur Apocalypse Now. Je crois que c'est dans Apocalypse Now où ils utilisent des cadavres d'instituts scientifiques.
Mais là,
ça coûte moins cher qu'en fabriquant en plastique.
Ils sont en plastique, coûte plus cher.
Sauf que les acteurs, l'actrice n'était pas au courant.
Ils n'étaient pas au courant.
Ils se baignent avec des cadavres.
Du plastique ou de l'os, pareil.
Mais on reste vraiment dans un film de Spielberg où t'es en banlieue, avec une famille...
Oui, en plus, sa maison, elle est pas effrayante déjà de base.
En plus, ça met longtemps avant d'expliquer pourquoi il y a tout ça. Les parents... On reste quand même dans un truc qui est fantastique. Les choix peuvent être un peu discutables, on va dire. Mais ça a été sublimé par certains acteurs, comme la petite fille à 5 ans à l'époque. Ouais. Celle qui joue Caroline, je sais
Qu'est-ce
plus.
Qu'est-ce qu'elle devient?
Elle est morte.
Oui, elle est morte.
Elle est morte pendant le tournage, je crois. Mais
pas évident. Je me suis dit, elle a un petit jeu d'actrice sympa et...
Ça a traumatisé des générations. Et le truc Zero Here, pour dire qu'ils sont là, les fantômes, quand elles demandent, quand tes parents disent ils sont où, ils sont déjà là, tu vois. Ça, tu le retrouves un peu dans les Simpsons, dans d'autres trucs, avec le délire de la télévision qui grésille. À la fin du générique des Simpsons, c'est exactement ça.
Mais oui, ça a posé les bases de beaucoup de films d'horreur.
Et je te dis, une semaine après, il y avait E.T. qui sortait, et du coup, il pouvait pas le vendre en tant que son film à lui. Et c'est pour ça qu'il a... En gros, il a engagé Toby Hooper, parce que Toby Hooper avait les qualités, c'était une certitude, mais... T'as des séquences où tu vois que Spielberg n'est pas là et que Toby Hooper, ça fait plaisir.
Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Toby Hooper?
Principalement Massacre en tronçonneuse, que t'as déjà vu.
D'où la scène gore
Il y en a plusieurs, mais tous les effets aussi, stroboscope et tout, c'est pas très Spielberg, tu vois. T'as quand même vraiment la réalisation de Spielberg, tu vois. Toi, tu savais pas, tu t'es dit c'est un film de Spielberg.
Ah oui, clairement.
T'as dit Harry Goldsmith.
Mais même sans ça, effectivement, l'image, le
quartier, le contexte.
Exactement, la famille, la famille américaine que c'est tu retrouves. Oui, tout à fait.
Et après moi je conseille à tout le monde de regarder, même si on n'aime pas les films d'horreur, vu que c'est du Spielberg, on va dire que c'est du tout public.
Ouais, ouais non, 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 c'est pas tout public.
10 ans, quoi. Non, tout public, je veux dire que c'est accessible à même les gens qui aiment pas les films d'horreur.
Ça, ah, ouais, bah, c'est pas un film d'horreur, ouais, comme tu ouais. disais, c'est plus du fantastique.
Oui, c'est du fantastique, mais il y a quand même 2-3 touches un peu. Waouh!
Ouais, c'est
sorti de nulle part. Ouais.
Donc, à regarder, c'est un bon petit film d'Halloween à voir en famille si vos enfants ont plus de 6 ans. 8 ans.
10 ans. Mais papa. Ouais, ben voilà. On était un peu précoce sur les films d'horreur, je crois, dans la famille.
Bah, moi, j'en ai vu des plus traumatisants à cet âge. Ça, oui, j'aurais pas fait avoir 5 autres films.
Interdit au moins de 16 ans.
Il est sorti.
Regardez pas ça. Mais regardez pas ça, mais vous êtes.
Mais les gamins jouent à Call of Duty, c'est interdit au moins de 18.
Ça va.
Ouais, ça va, la scène avec le miroir là.
Oui, bah écoute, sur gamin, tu veux plus qu'il regarde la télé, tu lui mets un volant d'ailleurs.
Ouais,
c'est vrai.
Ouais, j'avoue, c'était une bonne idée, ouais.
Il m'a découvert ce que c'est que la neige, il l'a jamais vu sur un écran de télé.
Moi, il m'a fait peur. Moi, Poltergeist, il m'a fait peur.
C'est vrai que c'est énorme de, quand tu regardes les films des années 80, c'était ancré catholique dans l'époque.
Quel camp catholique avec la
bonne neige. Les voisins qui se battent pour la télé.
La télécommande, ça n'a aucun sens. Autant pas inventer de télécommande dans ces cas-là.
Ouais.
Enfin bref, voilà. Passons à la musique de Jerry Goldsmith, le thème principal de Poltergeist. Je ne sais plus le nom du morceau, mais tout le monde va le reconnaître.
The Calling the Neighborhood. Désolé pour l'accent. et de retour dans Ciné Primitif, c'était la musique de Poltergeist, ouais. Film présenté par Dahu, un bon petit film d'horreur familial.
Oui, au revoir à chaque Noël.
Avec en BO, Jerry Goldsmith.
Et je te propose, Bobo, de passer à ton film.
Eh bien, en deux lettres, E.T. mais bon, en anglais, E.T. Voilà, The Extraterrestrial, sorti en 1982. E.T. en français, ou l'extraterrestre, tout à fait. Donc, sorti en 82, hein, je le répète, mais qui a fini quand même avec 4 Oscars. 4 Oscars et 5 nominations. C'est pas mal quand même. Hein. En Oscar, on a le mixage sonore, le son, la musique, les effets spéciaux. Sur la musique, la BO. On en parlera tout à l'heure, mais on parle de, quand même de John Williams. La distribution, on a Henry Thomas, qu'on peut retrouver dans Gangs of New York. Mm-hmm. Vous voyez lequel c'est ?
Non.
C'est son copain qui va le trahir.
Ok.
Drew Barrymore, qui a joué dans
Donnie Darko. Excellent film que j'ai présenté l'année dernière.
Petit clin d'œil pour toi, mon nono. Charlie's Angel. Et Dee Wallace, voilà.
Wallace.
Pour l'histoire du... aucune idée, il a rien fait derrière, j'ai rien trouvé d'intéressant, Dee Wallace. Dee Wallace, si tu m'entends, je suis désolé pour ta carrière.
Et là, tu le crames en plus.
Ouais, j'ai rien pour toi. Pour le synopsis d'E.T. Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres envoyés sur Terre en mission d'exploration botanique sortent de l'engin. Mais un des leurs s'aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C'est la première découverte de la civilisation humaine. Bientôt traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée, se nommant E.T., se réfugie dans une résidence de banlieue. Elliot, un garçon de 10 ans, le découvre et lui construit un abri dans son armoire. Rapprochés par un échange télépathique, les deux êtres ne tardent pas à devenir amis. Aidé par sa sœur Gertie et son frère aîné Michael, Elliot va alors tenter de garder la présence d'E.T. secrète. Voilà, et j'ai choisi ce film. Juste une chose, parce qu'à un moment donné, ils le sortent à la fête d'Halloween.
Ouais. C'est un court passage, mais
c'est pour ça que j'ai pris.
J'ai trouvé tout de suite, je me suis dit que c'est pas le traumatisme de l'extraterrestre.
Non,
la peur du vélo, je sais pas.
Pourtant, je trouve qu'il fait peur, hein, le design d'E.T. Peut-être.
Ça dépend des versions.
Parce
qu'au-delà du. Quand même, il y a eu un Oscar, tu disais, pour les effets spéciaux. Mais ils ont fait au moins. Il a fait 4 fois, au moins, des remasterisations où il a changé E.T. Maintenant, les remasterisations 3D. Ils ont changé des mots.
Ils ont retiré les armes.
Ils ont remplacé pas toutes. Ils ont remplacé certaines armes par des Tokyo Walkie. Ouais. Et ils ont changé aussi le mot terroriste par cowboy.
Moi, c'est ça qui me dérange. Moi, c'est le problème. C'est de toucher à ces films où il n'y a pas lieu d'y toucher.
Et bah, par chance, je l'ai revu dans une version qui était ancienne. Surtout le CGI sur E.T. il est vraiment pas utile, quoi.
Non. Après, ils avaient coupé une scène du bain là qu'ils ont rajouté parce que Spielberg il était pas fan du E.T. dans la baignoire. Bon, voilà, maintenant ils l'ont rajouté. Mais c'est, effectivement, ils ont changé beaucoup de choses sur la nouvelle version de E.T.
Il l'a remasterisé un peu comme ils ont fait avec Indiana Jones et Star Wars.
Lucas et Spielberg, c'est les pros pour ça, je sais pas pourquoi.
Parce que sont pas satisfaits. Avec leur truc qui continue d'évoluer.
Mais ils ont
détriment des fans. Le pire, c'est qu'ils enlèvent les anciennes versions. Les anciennes versions sont plus accessibles aux gens, en fait. Enfin bref. Sinon, le film est très bien. Hein. Moi, c'est un grand classique de Spielberg.
tu peux pas passer. L'histoire, c'est que je l'ai pris parce que justement, à un moment donné, ils sortent E.T. pour Halloween et le coup.
Mais après, c'est quand même un moment, le film, t'as le début, la fin, mais entre les deux, t'as une succession de petits sketchs, enfin de scènes où E.T. découvre le monde, E.T. il faut le cacher. Enfin, ça fait pas beaucoup évoluer.
Alors, le film, après, il se fait vraiment au niveau des yeux d'enfant parce que tu vois que tous les adultes, à part la mère et. Le scientifique à la fin, on voit jamais leur visage. Tu vois, t'es toujours dans la version enfant, quoi.
Et d'ailleurs, justement, tu disais, on voit jamais leur visage, les scientifiques, justement, pour faire peur, on les voit pas et tout, et on se rend compte un peu que c'est l'humain, le danger, qui veut.
Oui.
Et ça fait un peu cette impression. Bah,
c'est un gorille
caché, ils sont pas humanisés.
C'est un des premiers films de science-fiction où l'extraterrestre est gentil.
Il est gentil, mais un peu con.
Bah, il y a rencontre du troisième type de Spielberg aussi, où ils sont pas méchants.
Ils sont pas méchants. Après, juste une dernière info, il y avait Harrison Ford qui devait jouer une scène, mais à l'époque, il venait de faire le...
Star Wars ?
Non,
Jones, Star Wars,
Indiana Jones.
Indiana Jones. Ouais. Et du coup, si tu étais trop connu, bah, etc. Et du coup, ça passait pas sur ce que Spielberg voulait faire passer. Donc, il a supprimé la scène. Voilà. Et après, j'avais mis une petite anecdote sur les jeux vidéo.
Ah bah oui, le jeu Atari.
Ouais, les pires jeux de l'histoire. Un des pires jeux de l'histoire du jeu vidéo.
Mais qui a créé la légende du jeu Atari.
Ouais, et qui les ont enterrés dans le désert, etc. Et puis on a été retrouvés déterrés.
Attends, il y a des gens qui ont été les chercher et
ouais,
tout.
Ouais, mais ils les ont retrouvés en 2014.
Ah, un peu, mais c'était dans cette décharge en fait.
J'ai pas trop suivi, c'est quoi la légende.
En fait, E.T. est sorti sur Atari.
Ah oui.
C'était un des pires jeux, tu vois, il s'est fait bâcher et tout. Okay, ouais. Et plutôt que les vendre, ils ont enterré dans une décharge. Okay. Et sauf qu'il y a des fans qui ont retrouvé cette décharge et ont sorti des jeux Atari quelques années après.
Et le plastique impeccable. Non, je t'ai dit.
Et ça fait partie des légendes des jeux vidéo.
Voilà.
Ok. Ouais, sur E.T., ça n'a rien à voir. Mais j'avais vu l'acteur là, qui jouait Elliot, quand j'ai revu le film, je me suis dit, putain, il me fait penser à quelqu'un quand même. J'ai déjà vu quelque part. Il joue dans la série The Hunting of Hill House.
Oui, c'est ça.
Et ouais. Et qui aurait été une bonne série d'Halloween.
J'aime bien cette série.
Et du coup, voilà.
Je connais pas.
Petite anecdote.
Ouais, je connais pas. Regarde les séries,
mais en plus, c'est sur Netflix. C'est rare qu'il y ait des bonnes séries sur Netflix.
Ah, et puis c'est série one shot, c'est une saison.
Ouais.
Je vais conclure sur la BO signée John Williams. Avec le thème principal, bah Titi.
Et on se retrouve dans Ciné Primitif. C'était E.T., présenté par Bobo.
Oui, avec la BO de John Williams, reconnaissable parmi des milliers d'autres BO. Voilà, voilà, magnifique.
Ouais, je vous propose de passer au prochain film, du coup, Candyman. Alors, Candyman, c'est un film sorti en 1992, réalisé par Bernard Rose, d'après l'œuvre de Clive Barker, une nouvelle de Clive Barker, The Forbidden. Clive Barker, sur ce film, est producteur exécutif. Bon, Clive Barker, inutile de le présenter, hein.
Hellraiser.
Etc. La photographie, Anthony Berichman, parce que je dis son nom parce que la photographie dans ce film est quand même particulièrement belle. Donc j'avais envie de le citer. Dans le film, on voit Tony Todd, qui joue le rôle de Candyman. Tony Todd, on le voit dans La Nuit des Morts-Vivants aussi, et dans je ne sais plus quel autre film. C'est un acteur...
je pourrais pas t'aider.
Classique de série B. Il y a Virginia Madsen, qui joue Ellen Lyle, qui joue dans... Highlander 2. Chef d'œuvre.
Avec
Belair qui louche. Bon, alors passons au synopsis. Ellen Lyle, étudiante en sociologie, enquête sur une légende urbaine dans les quartiers pauvres de Chicago. Celle du Candyman, un esprit vengeur à la main remplacée par un crochet. Selon la rumeur, il apparaît si l'on prononce son nom 5 fois devant un miroir. En cherchant à démystifier cette croyance, Ellen va involontairement réveiller la véritable terreur. Ce film... il a une construction qui est assez particulière et qui est assez bien foutue parce que il sort après toute la série de slasher, les Vendredis 13, les Freddy Krueger, Halloween, etc. Sauf que là, il prend un contre-sens, on va dire. On commence par le grand classique, comme c'est présenté, un mec au crochet qui va tuer des gens. La scène, une des scènes d'ouverture commence par un couple de jeunes qui se fait, la fille dit 5 fois le nom de Candyman et se fait ventrer devant. En fait, c'est la perception qu'a Ellen Lyle, qui ne croit pas du tout en ça. Elle le voit comme une légende urbaine, etc. Sauf que, fur et à mesure du film, elle rencontre certains protagonistes qui habitent à Cadney Road, qui est le quartier de Chicago dans les ghettos, qui lui disent que Candyman existe et qu'ils peuvent le prouver en lui présentant une certaine personne. Pour elle, Candyman reste un mythe et qui sert à, en gros, démystifier tout ce qui se passe dans les quartiers. Candyman, c'est un peu le croque-mitaine du coin. Et elle rentre là-dedans, malgré les avertissements de sa collègue qui lui dit de ne pas y aller, c'est dangereux, c'est le ghetto, c'est géré par les gangs, etc. Elle se fait péter la gueule par un mec qui se fait passer pour Candyman.
Un chef de gang.
Un chef de gang, comme l'avait averti tout le monde. Et suite à ça, elle rencontre le vrai Candyman. Le fait qu'elle ait démystifié Candyman, des gens n'y croient plus. Potentiellement ne vont plus y croire. Du coup, il se manifeste pour recréer une nouvelle légende en l'envoûtant. Ce film est assez intéressant parce que, en gros, c'est lent, c'est planant en fait. C'est un conte pour adultes, non?
Ouais. Mais t'as surtout une critique sociale et raciale.
C'est social en fait. Tout c'est. Alors...
parce que t'as les noirs quand même qui sont d'un
exactement.
Côté qui sont pauvres.
Ce qui est de l'autre côté du pont.
C'est un fils d'esclave. Candyman, c'est un fils d'esclave.
C'est un fils d'esclave, exactement. Et qui est sorti avec la fille d'un riche. Un riche propriétaire blanc qui est tombé amoureuse de lui et son père n'a pas apprécié. Ils lui ont coupé la main, ils lui ont recouvert le ventre de miel et il s'est fait dévorer par des abeilles.
D'ailleurs, la scène, il est vraiment entouré d'abeilles. Enfin, il n'y a pas d'image de synthèse.
Non, 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 il a vraiment tourné. Il a demandé à chaque piqueur d'abeilles d'être payé $1000 par piqueur, en fait.
Et il n'a pas gagné tant que ça, mais...
Et ses abeilles étaient dressées. C'est un mec qui avait déjà dressé ses abeilles pour d'autres films. Donc, en fait, elles sont juvéniles. Elles ne piquent pas encore. Elles ont 10 jours, je crois, 10-12 jours. Le message est vraiment social. L'horreur est presque basée au second plan pour en revenir à une critique de la société, des femmes aussi en général qui sont pas prises au sérieux comme on voit avec les autres scientifiques qui enquêtent sur les histoires urbaines. Mais malgré ça, le personnage de Ellen Lyle persévère et se retrouve complètement dans...
Ouais, puis elle, c'est un peu une bourgeoise qui arrive dans les ghettos, qui a pas de respect pour eux.
Non, non, oui, c'est ça, elle y va sans gêne, elle va dans les maisons, ça, tout ça.
Juste pour faire son enquête.
Donc, sa sortie, Candyman, a vraiment eu, pour une fois, des critiques positives. Hein, généralement, les films que je présente, j'ai mauvaises critiques.
T'as des goûts particuliers,
sauf pour Paul Torres, avant, qui a bien marché. Mais le film, ce qui est marrant, c'est que la bande-son a été créée par Philippe Glass. Philippe Glass, c'est un des plus grands compositeurs encore vivants. Il n'est pas forcément connu pour ses BO de films. Il a fait celle de Truman Show, entre autres. Mais c'est un des plus grands pianistes encore vivants. Et il a signé pour ce film qui est réalisé par un réalisateur plus ou moins inconnu. Moi, j'ai de mémoire vu aucun de ses autres films. Mais la bande-son est quand même assez surprenante. On a un thème qui reste en tête et qui est devenu un classique de l'horreur depuis maintenant presque 30 ans. Plus de 30 ans même. Il y a eu une suite, il y a eu un reboot.
En 2015. J'ai failli regarder celui-là sans faire exprès.
C'est vraiment pas ouf. Le reboot de 2015, il a pas compris l'essence même du message.
Il s'en fout.
Ouais, dans le premier, en fait, t'as vraiment quand même l'aspect social qui passe par-dessus l'aspect horreur. Ouais. Et l'horreur revient à chaque fois pour rappeler que la réalité est forcément dure dans ces quartiers-là.
Ouais. Après, moi, je suis vraiment un petit enfant quand je regarde ces films d'horreur. C'est un peu compliqué pour moi. Mais j'avoue que bon, il est sympa.
En fait, le truc de la construction de l'architecture et tout, t'as quand même tout passe par le pont en fait. Dès qu'elle passe le pont, elle se retrouve à Caddy Green et à tout ce qui est un peu austère. Tu vois, elle quitte ses quartiers, son cocon familial son confort exactement.
Son confort.
Pour arriver là-haut, et t'as plein de scènes comme ça quand t'arrives à Caddy, t'es entouré de blocs, donc t'as une architecture vraiment rectangulaire et.
Oui, ils en parlent de l'architecture qui est la limite entre les quartiers, enfin le centre-ville et la banlieue.
Et que t'as la fac qui est un amphithéâtre en fait, c'est circulaire, donc c'est beaucoup plus confortable que les. Tu passes comme ça et.
La lecture du
film, elle se fait pas en une seule fois en fait.
Je l'entends bien et c'est ça, tu le perçois.
Ah oui, bien sûr. Ouais.
Ça m'a pas transcendé. Je dois l'avouer, ça m'a pas transcendé.
Il y a juste une ombre, je trouve, à la perfection de ce film, c'est la fin. La fin est. Je pense que c'est une fin voulue par les producteurs parce que c'est une fin ouverte vers une suite, tu vois. Mais Clive Barker était producteur exécutif, était particulièrement là sur le tournage et a fait respecter son œuvre par rapport à ça. Philippe Glass, en contrepartie, n'a pas du tout aimé le film. A renié longtemps ce film avant de l'adouber, principalement parce que ça lui a rapporté des sous. Exactement.
Classique.
Mais la VO est vraiment puissante. Tony Todd, la scène où on le voit pour la première fois dans le parking, en fait, le son est vraiment puissant parce que le son, il vient de partout. En fait, il vient pas de face à elle. En fait, il est dans sa tête et il est face à lui. Et t'as plein de petits procédés comme ça qui sont assez ingénieux pour un mec qui avait jamais fait de grand film, ou peut-être toujours maintenant.
Je propose qu'on passe à la musique.
La géniale musique de Philippe Glass, franchement, elle est pas à chier. Donc, c'est le thème principal du film de Candyman.
Thank you.
Et c'était Candyman, présenté par Dahu.
Ouais.
Avec la BO.
De Philippe Glass.
Ouais, quel pianiste. Vraiment, t'as ouais. Superbe morceau.
Ouais, franchement. Film de Bobo.
Ah, regarde avec les enfants.
Oui, ouais. Moi je vous présente The Crow, sorti en 94 de Alex Proyas, qui a notamment réalisé iRobot et The Crow qui lancera sa carrière. La distribution, on retrouve Brandon Lee, qui n'est autre que le fils de...
Bruce Lee.
Eh oui, oh, tout à fait.
Au voilà. Hasard.
Ah, c'est pas le jet.
Non, 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 ça s'écrit pas pareil.
Il y a
ça
trop de Lee, moi je sais plus.
Avec Michael Wincott, qui a joué dans Robin des Bois, qui joue le méchant. Ouais. Quand...
Le chef de Nottingham.
Ouais, voilà.
Nottingham.
Le duc de Nottingham. Qui a joué aussi dans Dead Man avec Johnny Depp et Alien Resurrection. Ah, j'aime bien sa gueule un peu de méchant là. Ouais. Je l'aime bien. Ernie Hudson qui a joué dans SOS Fantôme, Basketball Diaries. Le synopsis, la veille de leur mariage, Eric Draven et Shelley Webster sont sauvagement assassinés. Un an plus tard, un corbeau ramène Eric à la vie au cœur d'une ville plongée dans les ténèbres. Eric va se laisser conduire là où sa vengeance l'appelle, pour que justice soit faite pour l'amour de Shelley.
Oh.
Wow. Wow. Et là, ça démarre. Et là, la vengeance se met en route. Voilà, non, c'est un film très sombre, très... très gothique. Très gothique.
Ah bon.
j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et puis, j'aime bien aussi la performance de Brandon Lee. Il faut savoir que bah, il est mort sur le tournage, hein, quand
ouais,
même. Hein, on parle de la malédiction des, de la famille Lee, puisque son père s'était fait tirer dessus aussi.
Non, non.
Sauf que Brandon Lee, lui, il est mort sur le tournage.
Effectivement, mais... c'est une grosse différence.
Ouais, voilà. mais son père, Bruce Lee, s'était fait tirer dessus aussi lors d'un tournage et n'en était pas mort. Mais après... reprenez l'émission sur Kung Fu, vous en saurez plus sur Bruce Lee
et sur son maître
et sur son maître Ipan. Voilà, non mais effectivement donc c'est quand même un film qui a connu la mort de l'acteur principal sur le tournage.
Ouais.
Hein, faut pas...
D'ailleurs, une légende autour de ça, on dit que la scène où il tombe, il se fait tirer dessus et il tombe par la fenêtre. On dit que c'est la scène où il est mort, mais ça, c'est une légende.
C'est
une légende,
parce que
tous les
rushs
ont été donnés aux flics. Ouais. Non, ils ont été donnés aux policiers.
C'est une légende, mais ouais. Il y a une légende autour okay. de ce film qui a participé aussi à...
Je la connaissais pas, mais bon, c'est possible, ouais. Mais du coup, sa performance, moi, je la trouve géniale
ouais, cool.
à Brandon Lee.
Ça reste bien à l'esprit comique, je trouve.
Ouais. Ouais.
T'as vraiment une... Oui. C'est pas... Merde, comment ça s'appelle, le truc...
Sin City.
Moi, c'est pas Sin City, mais t'as des idées quand même. La maquette, la scène d'intro, comme je te disais, la scène d'ouverture avec la maquette de la ville très gothique et tout. Et la caméra qui est vraiment rapide dans la maquette. Hein, normalement,
et toujours la pluie et tous les contrastes.
Ouais, de toute façon, c'est que de nuit.
Les ombres, la pluie et tout, ça fait vraiment comics.
Ouais, c'est dans tiré d'un comic book créé par James Hobarn en 81. Voilà, qui commence à dessiner suite à la mort accidentelle donc de sa petite amie. Et le film est sombre, tout est sombre en fait dans ce film, la réalisation, le comics, la mort de l'acteur principal. Enfin, vraiment, tu touches sur ce film le fond du fond en termes de.
Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il est mort avant que tout soit tourné, je crois.
Mais
quand tu regardes le film, moi j'ai une impression pas fini. Quoi.
Non, c'est le premier. Je crois que c'est un des premiers films où ils ont mis des images de synthèse sur le visage.
Parce qu'il y a des trucs, des fois, ça a tourné dos ou je sais
ça
pas.
Ça leur a coûté 8 millions en plus.
Ouais.
Le film, à la base, il y avait un budget de 15 et tu après, ils ont sorti un budget de 23.
Ouais, c'est sa doublure où ils ont mis son visage.
Ouais, ouais.
Donc.
Mais ça va, ça se voit pas trop.
Voilà. Après, c'est un film qui a rapporté, je sais plus, dans les 90 millions quand même.
Ah, oh, ça a bien marché.
Pas mal. Bon, on n'est pas sur du E.T. Hein, qui a fait 300 millions. Mais
pas si Spielberg.
Ouais, t'es sur une machine de guerre, hein, Spielberg. Mais voilà, non, mais vraiment, c'est un film rentable. Très très bien là-dessus.
Après,
voilà.
C'est au niveau de l'héritage, tu vois. Je pense que nous, ça cause à nos générations. Est-ce que des gens plus jeunes. prendrais ce clip-là, parce que ne serait-ce que la bande-son, les groupes de musique et tout, sont très 90 et fin 80.
C'est ça, hein, t'as du Rage Against the Machine, t'as du Nine Inch Nails, The Cure, Pantera. Hein. Oui, effectivement, c'est une BO d'artistes du moment qu'on contribue au film à ce moment-là. C'est après
moi, le fait de tourner nuit, déjà, je pense que ça, du moins, ça vieillit mieux parce que ça cache du moins beaucoup de choses.
Mais oui, effectivement, moi je trouve qu'il a une pas très bien vieilli. Pour moi, il a pas très bien vieilli.
Moi, je trouve qu'il a pas trop mal vieilli.
Ah, il a un peu vieilli. Mais pour nous,
j'ai du mal à le voir avec un regard extérieur en fait.
Pour ouais, voilà. Mais quelqu'un qui le voit maintenant, il se dit
ouais. Ah ouais, je suis d'accord.
Je sais pas, il y a pas trop. Tu vois, il y a un petit peu d'image de synthèse, c'est pas trop hardcore.
Beaucoup de ralentis, de trucs.
C'est des ralentis, ouais. Ouais, ouais, ça, c'est
chiant ça.
Ouais, mais c'est très. Cinéma hongkongais, bah, comme les films de son père, c'est pareil, t'as du ralenti.
Ouais, pas bien bon, sûr.
C'est non, pas Matrix,
voilà.
Quoi.
C'est un film, voilà, qu'il faut prendre d'époque très. Mais c'est un film vraiment extrêmement obscur. Dans tous les sens du terme.
Par contre, faut pas voir les suites.
Moi, je suis pas d'accord avec toi.
Vincent Pérez.
Ouais, Vincent Pérez, il est pas mal dans le 2. Voilà, probable. Après, dans le 3, t'as...
Ouais, c'est
Eric Mabius, peut-être.
Voilà, Eric Mabius.
J'ai lu ta fiche.
Ah, il est dans le 3ème, c'est ça.
J'ai jamais vu ça.
Eric Mabius, il est pas mal. Cette fois-ci, les peintures lirées en rouge, il est pas en noir. Voilà, par contre, j'ai pas vu le nouveau, là, le remake.
Ça a pas l'air bien. Franchement,
je l'ai pas vu, je peux pas dire.
Ça a pas l'air bien, je ne l'ai pas vu.
Voilà, bah, on n'en parlera pas, puisque là on est sur vraiment le premier volet avec Brandon Lee, et c'est un film obscur, très obscur dans tous les sens du terme. Je pense que pour Halloween, moi je le trouve bien.
Ah mais...
Et j'aime bien ce sentiment de vengeance.
Mais t'as le sentiment de vengeance, mais tu vois, en lisant ton synopsis, tu te dis waouh, t'as tout vu. En fait, le film commence. Il m'a pété la gueule.
Ah, mais ça c'est 5 minutes du film.
Ouais,
c'est le synopsis, c'est 5 minutes.
Oui, c'est
du
ça,
film.
Mais le mariage, tout ça, tu sais que via des flashbacks après, ouais, le mec sort de sa tombe, va péter la gueule direct au lanceur de couteau.
Ah, voilà, c'est ça. Il va détruire, mais il va détruire tout le monde. Et
bon, ça m'a fait plaisir de le revoir.
Ouais, ouais, c'était très longtemps.
Et puis surtout, c'est un grand plaisir, mais vraiment un grand plaisir de mettre un bon Pantera là.
Ah ouais.
En bande son là, et de vous envoyer un gros Pantera dans les oreilles.
Je m'attendais à du The Cure de ta part, mais tu me surprendras tous les jours.
Moi j'aurais mis The Cure. Mais...
jamais je te mets un Pantera.
Chacun son truc, c'est toi qui choisis.
Direct dans
tes
oreilles.
Et la musique c'est.
Pardon. Et maintenant, Pantera The Beige. Right.
On se retrouve dans Ciné Primitif.
Ouais, c'était la BO de The Crow avec Pantera, My Badge.
Ah, c'était pas mal.
Ouais, elle était énorme cette chanson. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de vous la faire écouter. Et si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. On vous la remettra.
Mais j'espère que vous avez aimé quand même. Et on passe au dernier film, La Famille Adams, sorti en 1991. Film de Barry Sonnenfeld, qui a fait aussi Les Valeurs de la Famille Adams, Les 3 Men in Black et Wild Wild West. C'est pas ouf.
Enfin, bah, pas mais par contre, les Men in Black, ils sont
énormes. Men in Black, le premier est bien.
Men in Black.
Pour le petit synopsis, bah, tout le monde connaît La Famille Adams, surtout, je pense, avec la série Netflix là, qui est sortie mercredi.
Que je n'ai jamais regardé.
Ah, bah, j'ai regardé la saison 1, mais ça ne vaut pas le coup. Ne faites pas, ça chez vous.
J'ai tenté ma chance.
Ah, mais après, il y en a qui aiment.
Je vous déconseille.
Il y en a qui aiment, on va pas se faire que des amis.
Je déconseille Netflix tout court, hein, mais après, oui, voilà. Moins radical.
C'est vrai. À part The Hunting of Hill House.
D'accord, je pensais même plus, mais je suis d'accord avec ça.
C'est vraiment une série pour ados.
C'est une série Netflix, on appelle ça.
Que ados.
Voilà, c'est pfff. Hop, au revoir.
Exactement.
Le synopsis, Morticia et Gomez Adams qui forment un couple de marginaux. C'est un peu des gothiques. ils vivent dans un sinistre manoir.
Ah, avec légèrement.
Ils vivent dans un sinistre manoir avec leurs deux enfants, Mercredi et Puxley. Eux, les enfants, leur truc, c'est de jouer à des jeux morbides. Un jour, l'oncle Fétid, frère de Gomez, est disparu depuis 25 ans, réapparaît. Mais celui-ci a bien changé et la famille se demande alors s'il ne s'agit pas d'un usurpateur.
Mon personnage préféré, oncle Fétid.
Oncle Fétid, bah, en plus, c'est Christopher Lloyd.
Oui.
Doublé par Roger Maté en français. Hein. C'est le même doubleur que sur Retour vers le futur.
Oui, voilà. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé en plus de la distribution, mais.
Bah oui, Christopher Lloyd quand même.
Christopher Lloyd, bah, principalement lui. Après, on a aussi Christina Ricci, qui a joué dans Casper Sleepy Hollow, que tu as présenté, Bobo. Et qui a repris un rôle dans la série Mercredi aussi.
Bison aussi.
Il y a aussi, ouais, voilà, Raoul Julia qui a fait quand même Bison dans Street Fighter. On n'a pas présenté Street Fighter, mais on a présenté un film qui est.
Je le présenterai, vous rassurez. Tout autant, rassurez-vous, oui. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous présenterai le Street Fighter. Alors, avec Jean-Claude Van.
Ça me rassure pas trop parce qu'on va être obligé de le regarder. Mais présente,
mais... C'est bien ça qui
tu
me
veux
fait
voir
plaisir.
Jean-Claude Van Damme au top du top de la cocaïne. Ah, ça peut être.
Non, et le plus triste,
pour j'sais... information, il était à 10 grammes sur le 10 grammes par jour.
Moi, je pense
sur
que
sur le tournage.
Je sais pas ce que ça représente, mais ça paraît beaucoup. En tout cas, Raoul Julia, là, le pauvre, vous vous rendez compte que quand même Bison, c'était son dernier rôle. Parce qu'il est mort pas longtemps après d'un cancer. Et
bah, ça l'a rendu culte aussi, Bison.
Ouais, mais du coup, c'était un acteur qui faisait apparemment pas mal de films d'auteur, etc. Et il a fini sur un nanar.
Ouais. Mais c'est pas grave ça, c'est bien de finir sur
oui,
un
mais beaucoup
nanar.
De gens connaissent cet acteur-là.
Là, on passe deux minutes sur cet acteur-là, qui est mort.
Et qui a fait Street Fighter, tu vois,
et
on rappelle.
Et qui a fait Street Fighter, voilà. Enfin, tu vois.
On revient sur La Famille Adams.
Oui.
Là, je vous cache pas que c'était une petite déception. J'ai choisi ce film parce que j'avais un bon souvenir étant enfant. Et j'avais envie de le revoir.
Bah,
et
moi,
en
c'est
le
l'inverse.
Voyant avant, avec mes yeux d'adulte, j'étais... moins fan, mais il est quand même cool, hein. Il est très très bien.
Moi je l'ai revu, je re-adorais comme à chaque fois que je le revois.
Moi comme d'ailleurs, j'ai pris mon pied. Franchement en le revoyant, j'ai pris mon pied.
Mais moi je pense que j'avais fait un mélange des deux films, parce que le 2 est très bien
aussi. Les Valeurs de la Famille Adams, c'est plus sur les enfants en fait.
Ouais, j'avais plus
de souvenirs. C'est plus un film familial enfant, celui-là, c'est vraiment de la famille englobée. Adulte et enfant, les Valeurs de la Famille Adams, plus un film pour ado ou...
Après, moi, c'est plus.
Mais drôle aussi, hein, j'aime bien La Valeur de la Famille Adams.
Moi, je trouve que c'est plus l'ambiance qui est cool, etc. Le film
en lui-même. Il pose les bases, même si c'est quand même une adaptation La Famille Adams, ça existe
d'une
avant.
BD.
Que...
C'est d'une BD.
D'une BD, mais
on connaît la série animée.
Voilà, c'est ça. Ah, pas animée. Yeah. Non, t'as une série Famille Adams dans les années 70 avec les anciens.
Ah oui, pardon, oui. Et il y a eu.
Et après,
une BD
y a
avant. Il y a une série animée maintenant.
Je sais plus dans quel ordre. En tout cas, c'était pas le premier.
C'est ça. Non, mais après, le film est cool. Voilà, après, il y a Tim Burton qui a failli réaliser le film. Ouais, j'avais pas trop d'anecdotes sur ça.
Ah ouais, bah.
Du
ça
coup.
Ça aurait pu être pas mal.
Oui, je pense que ça aurait même été mieux.
Voilà. Après, on avait déjà parlé de lui sur Sleepy Hollow, un film que j'avais déjà pris.
Mais là, le Christopher Lloyd et Raoul Julia, c'est. énorme la scène de la babouchka.
Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'ils ont bien trouvé les deux acteurs. Par
ouais, ils sont bien, ils se rendent la
réplique. Christina Ricci aussi.
Ouais, Christina Ricci, bah après elle était dans. Bah, c'était au début de sa carrière, je sais pas quel âge elle a, elle doit avoir 10 ans là-dedans, un truc du genre, 11 ans peut-être.
Ouais, sûrement elle a une quarantaine d'années.
Après, avant
c'est
que ça vienne.
C'est la fille du chanteur, c'est ça?
Non, non, mais c'est un peu. C'est une actrice phare de Tim Burton qu'on retrouve dans plusieurs de ses films.
En tout cas, je trouve que La Famille Addams, c'est un film qui colle bien pour Halloween au niveau de l'ambiance.
Bon, il y a une main qui marche toute seule, la c'est des gothiques, un manoir un peu
hanté.
C'est
un peu moins familial que Poltergeist, mais...
Non.
Par contre, je rebondis là-dessus. La Famille Addams, c'est vrai que c'est un bon film pour débuter, entre guillemets, l'horreur, je le mets avec des guillemets.
Ah, le gothique, on va dire.
Ouais, il n'y a pas vraiment d'horreur.
Le côté un peu sombre. Le côté un peu sombre, la mort,
etc. Ah, puis ça met très Hammer, c'est le majordome. Merde, comment il s'appelle. Enfin, bref, il ressemble vraiment à Frankenstein. T'as du... Ouais. T'as du cousin machin, il sort de... Je sais pas d'où. Mais le manoir, tout ça, c'est très...
Et ça, c'est, je trouve que c'est très très bien pour débuter l'ascension vers l'horreur.
En tout cas, moi, je trouvais ce film pas mal pour conclure l'émission.
Oui, moi aussi.
Oui, c'est
celui qui représente le plus Halloween.
Et alors, la BO, vous allez être déçus parce qu'elle est composée par Mac Sheman et la musique est bien du film. Sauf que là, j'ai choisi...
Le pire morceau.
Le pire morceau, c'est le générique de fin, c'est Adam's Groove de MC Hammer.
Pourquoi avoir fait ça?
Parce qu'il a reçu la nomination pour la plus mauvaise chanson au Radio Award.
Des Ailes Festival, c'est des rencontres littéraires sous le signe du partage. De la convivialité et de l'ouverture, voici la promesse faite par Interbibli pour cette 8e édition de ce festival itinérant en Grand Est. Du 12 au 22 novembre 2025, partez à la rencontre, près de chez vous, de 14 auteurs originaires des 4 continents. Par leurs récits, ils suscitent en chacun des rêves, des questions, des désirs et des émotions. Et surtout, l'envie d'en apprendre plus sur l'autre et l'ailleurs. Cette année, l'accent sera mis sur la convivialité, avec de nombreux temps d'échange avec les auteurs, 46 rencontres littéraires proposées en bibliothèque, une soirée d'ouverture le 12 novembre à Châlons-en-Champagne, avec un spectacle circassien, et une soirée de clôture à Metz qui vous proposera un spectacle sensible et poétique. Radio Primitive est partenaire de cette 8e édition. Pour tout savoir sur le programme et les rencontres, rendez-vous sur interbibli.fr. Au fil des ailes, c'est un festival engagé, convivial et de proximité. Alors rendez-vous dès le 12 novembre à la soirée de lancement.